C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut tout le monde, bienvenue à une autre émission de Ça tient la route, toujours en compagnie d'Alain Mécana. Salut Alain.
Salut Benoît.
Alors cette semaine, vous le savez, on commence toujours par nos actus. On va avoir un invité fort intéressant. Parle-nous-en un peu, Alain, parce que c'est toi l'instigateur de notre invité cette semaine.
J'ai reçu l'Orbidus, une compagnie québécoise qui s'appelle Vehicle Mind, qui a conçu un adaptateur qui se branche à l'ordinateur de bord via le fameux port OBD, le Onboard Device.
Le OBD2, le fameux OBD2.
Effectivement, Onboard Diagnostic. En tout cas, bref, ça permet de se brancher puis de savoir, tu sais, pour un mécanicien spécialisé, quel code de défaillance indique quel type de panne, quel appareil, quel composant effectué, et ainsi de suite. Sauf que c'est très opaque pour le consommateur, pour l'automobiliste moyen, et même pour les garagistes indépendants, parce que les marques essaient de rendre ça le plus compliqué possible pour être sûr. Moi, je suis le concessionnaire.
Exactement, t'as tout compris.
Et eux, ils ont construit un appareil qui se jumelle à ton téléphone sans fil et qui te dit c'est quoi le problème, puis est-ce que ça vaut vraiment la peine de se dépêcher puis d'aller le faire réparer ou si ça peut attendre. Ça va être assez cool. Puis il y a aussi des fonctions pour les gens qui font de la route, qui veulent mettre ça sur leur compte de dépenses, des travailleurs autonomes, des choses comme ça.
Donc ça va être notre entrevue.
Ça risque d'être assez cool.
J'ai 50 000 questions dans la tête.
Donc, est-ce que je peux en avoir un? Non, c'est pas vrai.
Ouais, c'est ça. Donc, on a ça va être notre invité. Et en essai routier, tu nous présentes quoi cette semaine?
Ouais, je reviens sur la Genesis G80. J'ai la version gros moteur.
La version crottée.
Exactement, le 6 cylindres biturbo. Donc, je sais ça. Ça va être le fun. Ça aussi.
Moi, je vais séparer ça en deux. J'hésitais. J'en fais un, j'en fais l'autre. Je vais faire les deux. Je vais passer rapido sur la M5. J'ai eu la M5 compétition BMW.
Ouh. Autrefois la berline sportive de référence.
Oh, ça reste encore pas mal, ça. Hein.
Ah,
c'est bon. C'est 150 250 $. Je tiens à avertir
ça
tout le monde
tout,
avant de commencer.
Dans budget, ouais.
Et dans le beaucoup plus raisonnable, j'étais aussi à l'essai avec une Toyota Camry hybride. Version XSE, en fait, qui est nouveau cette année. C'est une version sport d'un modèle hybride. Ça peut paraître un peu incompatible.
Un taxi qui roule plus vite un peu, non? Il y a comme une certaine
en fait, stéréotype. On a donné une allure plus sportive à un modèle qui demeure un modèle hybride. Donc, attendez-vous pas. Mais on a raffermi la suspension, on a retravaillé la direction, on a tenté de lui donner au moins un peu plus d'agrément de conduite.
Certains cachets.
Certains cachets, je vais vous en parler aussi tantôt. Mm-hmm. Mais donc ça sera pour vers la fin de l'émission. Et oui, pour ceux qui restent avec nous, on va prolonger un peu du côté balado et on a amené des questions du public. Ratatata!
Oui, faire quelque chose qu'on n'a pas fait souvent.
Et tata, ça fait 6 mois qu'on vous en parle. Là, j'en ai ramassé cette semaine parce qu'il y en a beaucoup. Merci aux gens qui nous écrivent. Donc, on va répondre à quelques questions cette semaine. En actu, parle-nous de ce que tu as amené comme sujet, Alain.
Oui, ben écoute, c'est une pré-annonce, pour le dire comme ça, que je pourrais faire parce qu'on va savoir plus tard, dans les prochains jours, en fait, dès le 15 avril, on va avoir le détail précis sur ce que Hyundai tente de faire du côté des petites camionnettes. On sait que ça fait quelques années qu'ils présentent un concept qui s'appelle le Santa Cruz de petites camionnettes coréennes, carrément, qui seraient vendues ici en Amérique du Nord. Ce qu'on va savoir donc le 15 avril, c'est que le Santa Cruz 2022 va être présenté dans sa version probablement très finale.
On a montré les premières photos d'ailleurs sur annuelauto.ca.
Ah hein, bon, tu vois, il y a déjà des esquisses.
J'ai fait la nouvelle là-dessus. Hyundai nous avait envoyé quelques photos, disons, qui découpe la silhouette du modèle sans tomber dans les détails. Mais on a une bonne idée de quoi ça a l'air.
Exactement. Ce modèle-là va être produit en Alabama, dans une usine que Hyundai possède là-bas, à partir de cet été. Ce qui fait que le modèle va être mis en vente probablement là, tôt à l'automne, quelque chose
on
comme ça.
On parle du troisième trimestre. C'est exact. Basé sur la carrosserie du Tucson.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Là où il va être, le Santa Cruz va être fabriqué, on fabrique déjà un paquet de modèles, dont le Tucson et le petit VUS, on l'imagine, va fournir la plupart des composants qui vont équiper le Santa Cruz. C'est un véhicule qui va ressembler un petit peu au Ridgeline chez Honda. Ça veut dire une camionnette qui va être dotée d'une structure monocoque, la fameuse unibody.
Exact.
Par opposition à ce que les plus grosses camionnettes font. Là, ce qui en fait un véhicule peut-être plus proche d'un VUS avec une benne à l'arrière que d'une grosse camionnette. Sous le capot, bon, on va retrouver sensiblement la même chose que chez Tucson. Un 4 cylindres d'aspiration naturelle de base, fort probablement, suivi d'une option avec un 4 cylindres turbo. Je pense que ça pourrait être le 2,4 litres turbo qu'on a déjà chez le Tucson qui fait 181 chevaux, quelque chose comme ça. le concept en 2015, je ne sais pas si tu te souviens, il était présenté avec un moteur turbo diesel.
Oui, effectivement, je me souviens très bien de ça. Ça, c'est avant le scandale de Volkswagen.
Comme quoi, le temps file et les aiguilles tricotent.
Oui.
Je serais vraiment surpris et on ne verra pas ce modèle-là.
Alors, ça, c'est mort et enterré. J'ai l'impression qu'on ne verra pas ça. Mais effectivement, tu as eu le bon réflexe. Ouais. C'est exactement ça.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les rumeurs laissent entendre qu'une version hybride ou hybride branchable pourrait être ajoutée au catalogue dans un an ou deux.
Oui, parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut du côté de Hyundai pour le faire. Donc, ça serait d'ajouter un groupe électrogène qui existe déjà, puis boum, on est parti.
Ça serait vraiment intéressant de voir ça. Ouais. Dernier détail pour finir là-dessus, le Santa Cruz va avoir le rouage intégral sur toutes les versions, encore une fois, si on se fait aux rumeurs, et pourrait être vendu à un prix de détail quand même assez raisonnable. On pourrait imaginer quelque chose sous les 30 000 $ qui aurait quand même une belle fiche technique. On le sait, Hyundai, ils ont tendance à bien équiper leur véhicule de série. Donc, ça va être à suivre, mais on va le savoir donc le 15 avril prochain.
Bon, parfait. Puis, autre nouvelle. Ah oui, intéressante ça. Mercedes-Benz qui va finalement amener son premier modèle 100% électrique parce que là on a eu, disons, une grosse chaise musicale depuis quelques années. Écoute, on avait fait un lancement international de presse pour le EQC. On avait invité des journalistes, on avait même, je me rappelle, 69 000 $. On avait annoncé le prix.
On était rendu très loin dans
cette
démarche.
Finalement, il n'est pas arrivé. Il est en Europe, mais il n'est pas ici. Puis là, ça sera plus le EQC qu'on va avoir en premier, ça va être le EQS.
Exactement. Disons, pour être poli, que la stratégie d'électrification de Mercedes-Benz tarde à se concrétiser, mais elle risque de se faire d'ici l'automne parce que ça va arriver vite. Le EQS, c'est la grosse berline électrique. C'est aussi le premier modèle que Mercedes-Benz a entièrement conçu à partir de zéro pour être animé par un moteur électrique seulement. Le EQC et d'autres véhicules dont il était question depuis étaient surtout des versions électrifiées de modèles déjà existants à moteur thermique. D'ailleurs, sa plateforme qui s'appelle EVA, là, pour c'est probablement genre Electric Vehicle Architecture ou quelque chose comme ça, c'est une plateforme modulaire qui va être utilisée aussi pour produire une berline EQE un peu plus petite.
Ouais.
EQS, c'est, on pense à la classe S, EQE, classe E, c'est un peu logique. Et un VUS dérivé de ces deux plateformes-là, de ces deux véhicules-là, en fait, aussi, qui vont arriver plus tard dans les prochaines années.
Ben, et on a même retenu cette semaine, on a breveté les noms pour le G, le Gelandewagen.
Oui.
On a breveté ces noms-là, donc ça risque même, parce que c'est une plateforme qui, somme toute, va être dans les dimensions assez semblables, ça pourrait même servir à ça.
Ça va être toute une berline, la EQS, qui s'adresse à une classe d'acheteurs assez fortunée, disons-le.
Oui, ça ne sera pas donné, ça, monsieur.
Écoute, je regardais la fiche technique, on parle de deux batteries, une batterie, disons, de base de 90 kWh et une autre un peu plus substantielle de 108 kWh. Avec une autonomie annoncée, et là, mettez un peu, disons, prenez votre grain de sel, comme on dit, entre 640 et 770 km par charge.
Ouais, ça, c'est le WLTP.
C'est la norme européenne qui est très, très généreuse, disons-le
comme optimiste.
Ça. Mais on peut imaginer 500 km ici pendant.
Dans le 670, je pense qu'on peut parler d'un 650 là, dans des bonnes conditions, mais pour le moment, là, c'est pas mal ce qu'on trouve de mieux sur le marché.
Ça va être assez imposant.
Puis on a même présenté les intérieurs que j'ai aussi mis sur Annuel Auto.
Bon, ben voilà, écoute, tu m'as scoopé sur
Il va y avoir deux intérieurs. Intérieur, bon, j'aime pas le mot de base quand on parle de...
Plus traditionnel, plus conventionnel.
Voilà. Avec plus de bois, du cuir, et on va avoir une espèce de parade technologique dans le modèle haut de gamme, là où tu as un écran, je pense qu'ils ont dit qu'il faisait... Il y avait comme 117 pouces d'écran.
C'était présenté au CES, là, le gros salon techno en janvier, de façon virtuelle. Il y a trois écrans à Dell dans une seule espèce de grande plateforme.
Chaque écran est interrelié. Là.
Exactement, beaucoup d'intelligence. Juste pour revenir sur la mécanique, juste pour, rapidement, parce qu'il y a des détails assez amusants. La batterie va être réchauffée ou refroidie avant de démarrer la voiture ou pendant la conduite pour assurer une autonomie optimale, même l'hiver.
Détail
important.
OK.
Et les batteries en question sont garanties 10 ans ou 250 000 km.
Ce qui est un peu plus que la moyenne de l'industrie.
Ce qui est une façon de rassurer des acheteurs peut-être un peu plus frileux.
8 ans et 160 000 km.
Exactement. Ouais. Et la recharge rapide devrait permettre de récupérer, bon, à peu près le tiers de l'autonomie. On dit ici, là, jusqu'à 300 km d'autonomie en 15 minutes seulement si on utilise une borne rapide compatible.
La phase 3, là.
Donc, ça permet d'être assez intéressant de ce côté-là. Encore une fois, choix de moteur. Mercedes, on le sait, hein, ils font des choix sur tout de façon incroyable.
Absolument.
Qui va donner une voiture à propulsion, donc roue motrice à l'arrière, ou quatre roues motrices selon le choix. Et ils disent, ils spécifient encore une fois, les moteurs minimisent l'utilisation de métaux rares, qui sont quand même un enjeu assez critique, au niveau de la chaîne de production.
Tu sais que Mercedes travaille présentement avec Hydro-Québec pour développer une pile à électrolyte solide qu'on devrait avoir dans des modèles de production d'ici 2025. Donc, on est déjà en train de travailler sur la prochaine génération de piles et on dit qu'il y aura presque pas de métaux rares dans les piles à électrolytes solides. Là, ça va être. On élimine entre autres le cobalt puis une partie du lithium.
Oui, faut féliciter Daimler parce que justement, on essaie de faire les choses à leur façon, un peu différemment et un peu mieux que ce qui se fait ailleurs plutôt que juste ramasser des morceaux qui traînent puis d'assembler quelque chose rapidement. D'ailleurs, la production de la berline EQS va débuter quelque part en juillet, peut-être, au début, en tout cas, en milieu de l'été, mise en marché nord-américaine, européenne à partir de plus tard cet été. Le prix de détail va probablement, et là, j'y vais avec des conditionnels, ressembler à ce qu'une Model S chez Tesla, bien équipée, coûte.
Autour de 120 000.
À 120 000 en montant, oui.
Ouais, probablement. Mm-hmm. Ben, puis si on prend tous les écrans, tout le bataclan, on va probablement aller se promener autour de 150. Mais il faut s'attendre au prix d'une classe S.
Exactement.
Mais en version électrique. En parlant d'électrique, GM a présenté cette semaine aussi un deuxième Hummer, parce qu'on avait présenté la version pick-up, appelons-la comme ça. Là, on a présenté la version VUS.
Exact.
Mais sautez pas sur votre chéquier tout de suite. On parle pas avant 2023. Ce modèle-là va arriver.
Oui, qui est millésimé 2024, pour dire
qui est millésimé 2024, loin, exactement. Ouais. Donc, c'est un VUS qui ressemble à ce qu'un Hummer ressemble. On a quand même été assez fidèles dans ce qu'on s'imagine comme modèle. Il va avoir le même groupe de piles lithium qu'on retrouve déjà dans le Hummer. Donc, on va avoir deux choix de moteurs. Il va avoir un moteur électrique avec 16 modules qui va donner l'équivalent... attendez un petit peu...
C'est beaucoup, là.
Ouais, 16 modules, puis il y en a un à 20 modules. Celui à 20 modules donne 482 km d'autonomie selon les estimations de GM.
Mm-hmm.
On a un petit peu moins pour le 16 modules, mais c'est les deux versions qui vont être offertes. Là, évidemment, les prix de détail vont varier. Là. Le modèle de base, qui ironiquement va être le dernier à arriver sur le marché,
moins rentable
va se vendre 88 898 $
Mm-hmm.
Et le premier modèle qu'on aura sur le marché, qui est le Edition One, lui va tourner autour de 131 000 $
Et qui va se vendre en ligne, dans le temps de le dire, probablement. Parce que la première version du Hummer s'est vendue très rapidement aussi.
C'est 131 898 pour être précis.
Mm-hmm.
Et ça, c'est avec l'ensemble en route. Parce que vous pouvez aussi choisir un ensemble en route ou le Edition One ensemble régulier à 125 898 $
Ouais.
Mais disons, pour être réaliste, que les modèles bien équipés, ça va commencer autour de 105 000 $
Véhicule très équipé, d'ailleurs, très high-tech avec les roues motrices et les roues arrière, puis moteur, tout le kit.
Le moteur avec les batteries à 20 modules, là, on annonce 830 chevaux.
Ah, juste ça.
Quand même.
Ouais.
Donc, ça va être un modèle, je pense, qui va être fort intéressant. Imaginez, vous avez une bébite qui pèse 2,5 tonnes.
C'est gros comme
un char de tour. 0-100 en 3,8.
C'est une Formule 1 très haut perché.
Ça ressemble pas mal à ça. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, cette semaine, je suis tombé en faisant un petit peu de lecture à travers les différents sites sur l'état de Fiat. L'état de Fiat au Canada qui, mon Dieu, qui meurt à petit feu. Hein, disons-le comme ça. On a vendu, pour vous donner une idée, dans tout le Canada, l'année passée, 2020, Canada au grand complet, on a vendu 32 unités.
De Fiat.
Au Canada, dans toute l'année 2020, 26-124, 5 Fiat 500X, puis une Fiat 500, je pense que c'est une 500 tout court qui traînait, qui est à neuf, qui était en 2019, pas vendue.
Mamma mia!
Donc, ça fait dire, OK, il va arriver quoi avec les gens de chez Fiat? Probablement pas grand-chose, mais pour le moment, on ne le saura pas tout de suite parce qu'on a ce qu'on appelle les 100 jours de Stellantis, c'est-à-dire que Carlos Tavares a annoncé, quand il a pris les rênes en janvier, le 8 janvier pour être précis, ou non, c'est le 16 janvier, qu'il n'y aurait pas d'annonce officielle de fait au sujet des 14 marques, rien avant 100 jours. 100 jours, c'est le 26 avril. Pour vous donner une idée, là, ça se situe quand? On approche.
Mm-hmm.
Et j'ai bien hâte de voir parce que j'ai vaguement l'impression qu'il va y avoir quelques cadavres qu'on va laisser derrière. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer Fiat, parce que Fiat se vend encore en Europe. Mais moi, je pense...
Du marché nord-américain.
Ben, je pense que oui, mm-hmm. là, parce que là, ça ne fait plus de sens. Il n'y a aucun moyen de rentabiliser ça ici en ce moment. Puis il reste rien, là. Il reste comme seul modèle chez Fiat, la 500X. Tous les autres modèles ont été enlevés. Y inclut la 124.
Qui est une
se
Mazda
vendait
MX5,
pas mal. Ben, qui est une MX5 qui est produite au Japon par Mazda, là, il faut bien le dire. Alors, donc, c'est des modèles qui sont, à mon avis, condamnés. Est-ce qu'on va continuer de les vendre en Europe? Probablement. Mais je pense qu'il y a un grand ménage à faire à travers tout ça. Mais soyez pas surpris qu'on annonce dans les prochains mois la fin de Fiat du côté de l'Amérique du Nord. Alors voilà, ça complète nos petites infos pour la semaine. Nous, on va passer à une première pause et on revient avec notre premier invité dans quelques instants.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette.
Je vous rappelle, avant d'aller à notre invité, que le balado « Ça tient la route » peut être écouté en ligne sur vos plateformes d'écoute préférées. Évidemment, on parle de Spotify, Apple, Google.
Ça, c'est des balados pour chien.
Apple, Google, exactement. Évidemment, sur le site du 98.5 FM, dans la section « Balado », sur annuelauto.ca, où je vais faire une mise à jour chaque semaine. Et si vous avez des questions, si on va en avoir aujourd'hui.
Oh oui.
Vous les faites parvenir à l'adresse balado, avec un S, à 98.5fm.ca. Alain, je ne sais pas si tu es comme moi, nous, on change de véhicule pratiquement chaque semaine.
On en essaie beaucoup.
Et on a eu, dans certaines marques, qu'on va taire pour le moment, des fameux check engine qui allument. Sur des véhicules neufs, ça arrive. Puis on se pose toujours la question, bon, il y a quoi là? Mm-hmm. Évidemment, il y a un bouton qui allume, ça nous dit pas grand-chose. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois m'arrêter? J'ai même une Porsche, tiens, je vais le dire, c'est arrivé il y a quelques années, où j'avais littéralement un signal, arrêtez votre voiture, bon, en anglais, là, je traduis, arrêtez votre voiture sur le bord de la route immédiatement.
C'est fou, hein?
Là, apparemment qu'il manquait d'huile. Et j'ai, par à peu près un miracle, j'étais à côté d'un endroit de service de pièces, tout ça, on vendait de l'huile.
Oh mon Dieu.
Finalement, c'était une erreur de lecture. Il me manquait pas d'huile, pas en tout. Fait que je me suis ramassé avec l'huile chez
c'est
nous.
Un faux positif,
que j'ai acheté pour absolument rien. Mais tout ça pour dire que c'est encore un grand mystère, tous ces petits boutons-là qui allument, puis on le sait, l'électronique, c'est de plus en plus présent dans les véhicules.
Oui, c'est de plus en plus mystérieux, en fait. Puis je pense que c'est fait exprès pour, justement, s'assurer que les gens vont faire leur entretien.
Est-ce que tu connais encore quelqu'un qui fait l'entretien de son véhicule?
Qui lui-même, tu veux
lui-même.
Dire? Ouais, non, il n'y en a pas beaucoup.
Non. Ça existe à plus près plus parce qu'on doit avoir un appareil qu'on appelle un appareil de diagnostic, le fameux OBD2. On va jeter un peu de lumière sur ce sujet-là aujourd'hui. On a un invité qui s'appelle M. Roberto Cialdella, qui est directeur du marketing d'une compagnie qui s'appelle Vehicle Mind. M. Cialdella, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission « Ça tient la route ». Merci de votre temps. On parle d'une compagnie qui fait, en fait, un appareil qui vous permet de mieux comprendre les problèmes que vous pouvez avoir avec votre auto. Parlez-nous un peu de cet appareil-là, comment ça fonctionne.
Oui, absolument. On a déjà décrit Vehicle Mind comme un outil qui peut transformer, disons, votre Honda en Tesla. Ce qu'on veut dire par ça, c'est que...
c'est bon!
Ce qu'on veut dire, c'est que Vehicle Mind connecte votre voiture à votre téléphone intelligent. Donc, c'est comme si votre voiture vous parle. Et ça vous permet de garder un œil sur l'état de votre voiture. Mais je dirais que surtout, ça vous aide à prolonger sa durée de vie.
Ah oui!
Ah, ça, c'est intéressant. Donc, autrement dit, quand le fameux check engine allume dans la voiture... En branchant l'appareillage dans le système du véhicule, on va être capable, ce système-là va être capable de vous dire via votre téléphone intelligent, c'est quoi le bobo?
Oui, exactement. Et pas seulement ça, il y a le niveau de gravité, il y a l'effet potentiel sur le véhicule. Et on vous propose également des solutions de réparation.
Ah oui, quand même, ouais. C'est très complet. Là.
Ça vient aussi, vous le faites par Internet, parce que évidemment, l'ordinateur de bord lui donne un code, il faut l'interpréter puis voir la gravité de la chose, mais ça, on ne le fait pas à partir du véhicule, vous le faites à partir d'une connexion sur Internet?
C'est ça, exactement. Il y a une base de données. C'est pour ça que c'est tellement, justement, c'est mystérieux, parce qu'il y a quand même 5000 codes d'erreur, et je dirais même plus. Donc c'est pas comme si c'est très facile à déterminer la raison pourquoi il y a un check engine sur la voiture.
Ça fonctionne, vous dites Honda, pour donner un exemple, ça fonctionne avec tous les véhicules, peu importe leur âge?
Il faut que le véhicule soit fabriqué après 2008, mais c'est compatible avec les automobiles, les VUS, les fourgonnettes, les camionnettes légères également. Et quand vous achetez le produit sur notre site, vous pouvez faire un test de compatibilité juste pour vous assurer à 100%
que ça fonctionne.
Exactement, okay. Exactement.
Ça, votre produit prend la forme d'un petit appareil, un petit adaptateur qu'on connecte dans le fameux port OBD du véhicule là, qui est situé, je pense, sous le tableau de bord quelque part la plupart du temps. Et ce jumelle, vous me corrigez si je n'ai pas raison, ça se jumelle par Bluetooth au téléphone, c'est exact?
Non, c'est une connexion 4G.
C'est
ça. Ce qui différencie vraiment notre produit, disons, des autres, OBD, les autres dispositifs genre, OBD, ouais. Exactement. Donc, parce qu'on s'entend qu'avec une connexion Bluetooth, faudrait qu'on soit à côté du téléphone vraiment pour comprendre ce qui se passe mm-hmm. avec la voiture ou avoir une connexion avec la voiture tout court. Et donc, ça ne dépend pas du datant de votre téléphone cellulaire.
Donc, votre appareil est connecté sur le réseau sans fil et grâce à ça, offre ses services de diagnostic et probablement aussi d'autres services parce que je voyais que vous avez une offre de base qui est gratuite, mais ensuite, il faut payer pour un forfait de 10$ par mois qui offre des services évolués et ça, c'est pas seulement pour du diagnostic.
Ah oui, là t'arrives à ma prochaine question. Ouais. C'est justement là, comment ça fonctionne. Là, moi, mettons, ça m'intéresse comme automobiliste d'avoir votre service. Parlez-nous des forfaits qui existent et comment ça fonctionne exactement.
Le dispositif coûte 99$ présentement. Donc, on paye ça une fois. Mais il y a un abonnement de 10$ par mois pour avoir accès à l'information via l'application. Mm-hmm. Donc, ce qui est inclus avec le service, parce qu'on nous demande souvent pourquoi est-ce qu'il y a un abonnement et qu'est-ce qui est inclus avec le 10$. En fait, c'est un service qui est très, très abordable une fois qu'on comprend ce qui est inclus avec le service. Parce que au-delà de comprendre pourquoi il y a un check engine qui s'allume, il y a un accès à une assistance routière qui est également inclus avec l'abonnement. Il y a la surveillance en temps réel de l'état de votre voiture qui devient possible grâce au dispositif. Il y a des alertes de sécurité aussi qui sont faites. Donc, si on tente de voler votre voiture ou si on tente de remorquer votre voiture, l'application vous avertit. Si vous êtes travailleur autonome, par exemple, l'application enregistre vos trajets et vos dépenses liées à votre voiture. Donc, c'est très, très idéal parce que ça devient automatisé. Pour moi, personnellement, j'adore la ligne d'assistance mécanique qu'on vient de lancer tout récemment. Donc, les abonnés de VehicleMind peuvent maintenant parler directement à un mécanicien breveté sur tout ce qui concerne l'automobile à partir de l'application. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui sont offertes pour
le 10$ par mois, là, que vous
voulez. Le 10$ par mois, okay. Exactement. Mais vraiment, le concept derrière VehicleMind pour nous, c'était surtout d'aider les automobilistes à affronter ou régler n'importe quel besoin lié à leur voiture. Donc, ça va même, je dirais, au-delà du problème du ouais. check engine.
Je voyais aussi qu'il y a possibilité de limiter. J'ai vu le terme en anglais, là, de limiter, disons, la portée du véhicule, la vitesse du véhicule pour le prêter, par exemple, à son adolescent qui vient d'avoir un permis de conduire et d'un petit peu de contrôler ses allées et venues. Est-ce que c'est le cas?
C'est pas de limiter, mais justement, si vous prêtez la voiture à un adolescent, vous allez justement comprendre un peu ses habitudes de conduite. Vous pouvez faire, ça s'appelle du geofencing, donc vous pouvez recevoir une alerte si la voiture... je sais pas, disons, il s'en va voir un ami ou dit qu'il va se rendre au cinéma, etc. Vous serez averti, dans le fond, si la voiture dépasse une zone prédéterminée par
okay.
vous. Vous allez avoir une alerte.
C'est un système de surveillance. C'est un peu comme Big Brother.
C'est un peu moins intense que ça, mais ça peut être pratique pour dire, tu sais, t'as un rayon d'action de 50 km, 100 km, peu importe, pour ton jeune automobiliste, puis dire, Voici ce que tu peux faire. Si tu dépasses, au moins, tu es averti qu'il y a quelque chose qui se passe.
Puis là, expliquez-moi, M. Cialdella, ce service existe depuis quand? Est-ce que vous avez déjà des abonnés qui sont au rendez-vous? Est-ce qu'on veut aller là? Parce qu'on le sait, là, c'est une entreprise québécoise.
Oui.
Est-ce qu'on vise un public plus large que les gens du Québec, du Canada? Est-ce qu'on va aller outre-frontière, aller ailleurs avec ça?
En ce moment, c'est offert à travers le Canada. On est en train de travailler pour pouvoir l'offrir aux États-Unis également.
OK. Est-ce qu'il y a de grandes différences au niveau de la façon de fonctionner si on va aller aux États-Unis par rapport à ce qu'on a ici?
Non, c'est vraiment, je dirais, la question, c'est au niveau du réseau 4G. Donc,
OK.
C'est ça. Donc, c'est pour ça, parce que, comme je dis, ça fonctionne avec un réseau 4G. Au Canada. Donc, si on veut pouvoir offrir cette information-là ou ce produit-là aux États-Unis, c'est les détails à régler pour pouvoir offrir le produit en dehors du Canada.
Intéressant ça. Moi, j'ai une dernière question parce que j'ai déjà essayé un produit similaire et je crois qu'il y a des fournisseurs, je pense même TELUS a quelque chose dans ce genre-là pour ses clients. Ça avait drainé ma batterie parce que la connexion cellulaire était permanente. Est-ce que s'il y a un risque que ça provoque même une panne du véhicule ou si c'est tout à fait sécuritaire de ce côté-là?
Non, c'est sécuritaire de ce niveau-là parce que notre dispositif est unique. Donc, pour être très, très clair, c'est pas comme si on a acheté une prise OBD et qu'on inclut notre logo. C'est vraiment un produit qu'on a développé sur plus de 2 ans, justement pour optimiser sa performance et pour éviter justement ce genre de situation-là. Et aussi que ça soit un dispositif indépendant.
Mm-hmm.
Donc, il peut vraiment vous offrir cette information-là sans drainer la batterie de votre voiture, mais sans non plus utiliser une connexion Bluetooth, comme j'ai mentionné, ou utiliser le data de votre téléphone.
Ah oui, d'où l'idée d'utiliser un 4G.
Exactement. C'était très important pour nous. Quand on s'est lancé dans cette aventure-là, on a remarqué que pas mal tout est connecté de nos jours. On a des lampes connectées, notre Google Home, etc., mais on n'a pas vraiment ce genre de relation-là avec notre voiture. Donc, on s'est rendu compte vraiment qu'il y avait une opportunité d'offrir aux Québécois un accès aux données de leur voiture, pas seulement pour faire un diagnostic du check engine, comme j'ai mentionné, mais vraiment faciliter l'entretien de leur voiture en général. Et comme vous avez déjà mentionné, c'est vraiment des données dont seuls les concessionnaires et les mécaniciens ont accès jusqu'à présent. Donc, c'est comme si on veut démocratiser un peu l'accès à cette information.
D'une part, et surtout de rassurer le conducteur ou les gens à bord, parce que quand on allume, on ne sait jamais trop ce que c'est. Est-ce que c'est une affaire urgente? Est-ce que c'est une affaire banale? Là, on est capable de mettre le doigt sur le bobo, et ça, je pense que c'est très important. Ben, écoutez, merci beaucoup pour votre temps, M. Cialdella, nous parlait d'un dispositif qu'on met dans son véhicule. Donc, je vous rappelle, M. Roberto Cialdella travaille pour Vehicle Mind. Il est directeur du marketing, une entreprise québécoise. Donc, je pense que c'est important. On encourage les gens de chez nous. Merci encore. Nous, on va à une autre pause et on vous revient après avec nos essais routiers.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette.
Troisième bloc de l'émission, c'est le moment de nos essais routiers. Alain, on a... Mm-hmm. En fait, j'ai même fait un petit bout avec toi ce matin.
Ben oui, c'est vrai. Donc, t'as co-essayé la voiture.
J'ai co-essayé, mais je l'avais eu auparavant, la G80. Mm-hmm. On parle de la G80 de Genesis, qui est le véhicule qui a parti la compagnie, disons-le.
Exactement.
Comme ça.
Et parce qui a été redessiné cette année.
Qui a été complètement redessiné.
C'est pas mal
là,
plus joli qu'elle était.
Honnêtement, là, ils ont fait du beau travail parce que la G80 existait chez... Hyundai.
Mm-hmm.
On a déménagé ce modèle-là chez Genesis. Et c'est en fait, il y a deux saveurs. Moi, j'appelle ça le modèle de base avec le moteur 4 cylindres 2.5 litres ou le V6 3.5 litres. Deux moteurs turbo.
Ouais.
300 chevaux dans le premier cas, 375 dans le deuxième. Parle-nous de ça. Comment t'aimais ça?
Oui, ben comme on l'a dit, ça fait la deuxième génération en fait, de la grosse berline qui a lancé la marque. Et pour le résumer grossièrement, je dirais que les designers coréens ont donc pu apprendre de leurs erreurs et tenter de faire mieux. Ce qui est, je veux dire,
C'est le but de l'exercice, oui.
Exactement. Résultant, on a le droit à une berline qui a plus de gueule, définitivement, et dont la silhouette est plus distincte que la précédente. L'habitacle a aussi moins l'air d'une version endimanchée d'une grosse Hyundai. Comme tu le disais, avant d'être une Genesis G80, c'était une Hyundai. Il y a eu même la Hyundai Genesis. Bref, il y a eu une longue procession. Puis je pense que l'idée, c'est de faire oublier un peu la marque Hyundai derrière le groupe Hyundai derrière cette marque-là, pour le dire comme ça, pour donner cette aura de haut de gamme.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis Hyundai a tenté de le faire à l'intérieur de sa propre marque. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que, puis je l'ai déjà conté l'histoire en nombre, je vais en résumer vite, mais on avait placé un véhicule Hyundai avec tous les logos, là, tout ce que bien identifié, tout ça, puis on avait demandé aux gens, vous pensez que ça vaut combien? Puis tout le monde était entre 35 et 40 000. On a enlevé tous les logos, on l'a mis là sans aucune identification. Le même véhicule, on s'entend.
Exact, identique.
On a mis un autre groupe devant ce véhicule-là, on a demandé combien ça vaut. Tout le monde était entre 70 et 75. Et pourtant, c'est exactement le même véhicule. Fait que c'est là qu'Hyundai s'est dit, OK, faut changer de nom.
Ben, il disait, on va essayer de créer une marque de luxe abordable. Ils se sont rendus compte qu'une marque de luxe qui est abordable n'est pas perçue comme une marque de luxe. Alors, ils ont dit, on va faire une marque de luxe, point. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce que la G80 de 2021, en tout cas, présente. Parce que, écoute, le prix de la version en moteur V6 biturbo, qui fait, en passant, 375 chevaux et 391 livres-pieds, est pas mal plus élevé que ce qu'on aurait, parce que ce que personnellement j'aurais souhaité. De base, avec le 4 cylindres, c'est 66 000 $ plus les frais de livraison, blablabla. C'est 76 000 pour la version qui hérite de 2 cylindres de plus et d'un turbo de plus. C'est quand même des sous.
Et honnêtement, pour avoir essayé les deux, j'achèterais le modèle de base.
Et l'affaire, c'est ça, c'est que le 4 cylindres, qui est aussi un moteur turbo-compressé, a droit à 300 chevaux et est très à l'aise sous le capot.
Il y a tout ce que vous voulez. Il y a tout ce que vous voulez, honnêtement. La puissance est assez bonne, la consommation. Et je trouve le fait que tu as 4 cylindres, le poids est moins élevé à l'avant.
Mm-hmm.
Et la voiture est plus intéressante à conduire dans sa version 4 cylindres.
Ouais. Ça reste une voiture aussi qui, je pense, atteint la cible dans le sens où il n'y a pas de modestie ou d'humilité sur cette marque-là. Maintenant, c'est vraiment une marque très assumée dans le luxe. Les gens la regardent, la remarquent, comme c'était peut-être moins le cas avant.
Oui, puis bon, évidemment, comme c'est Genesis, on tente d'éliminer ou d'éloigner l'affiliation avec Hyundai. Et le véhicule, honnêtement, paraît très bien.
Ouais.
Et on a quand même gardé une caractéristique qu'on a toujours eue chez Hyundai et même chez Kia, parce que dans le fond, c'est la même compagnie. On offre beaucoup d'équipements pour le prix. C'est-à-dire que ces deux modèles-là, que ce soit la G80 à moteur 4 cylindres ou avec le V6, il n'y a pratiquement pas d'options. Tout est là.
Il y a beaucoup d'options.
Une ou deux options là, vraiment très haut de gamme, mais vous n'avez pas, comme chez les Allemands, pour les nommer, à aller chercher des pages et des pages d'options dans un catalogue qui en a 400. Là,
exact.
Donc, pour le prix, dites-vous qu'à 66 000 $ pour le modèle de base, là, tout ce que vous avez ailleurs et que vous payez souvent en option va être inclus dans le prix qu'on va vous demander.
Exactement. Et il y a une bonne nouvelle, toute canadienne. Les deux versions vendues chez nous sont à quatre roues motrices. La G80 de base aux États-Unis est à roues motrices à l'arrière seulement.
Oui.
Donc, bravo à nous, puisque le rouage intégral est une belle addition et rend la conduite plus assurée. Cela dit, puis c'est ça, c'est que c'est une marque de luxe qui arrive à être un petit peu en retard sur les tendances du marché. Les gens qui lorgnent justement du côté des véhicules plus électrifiés, hybrides, hybrides branchables, et ainsi de suite, vont être déçus parce qu'il n'y a pas d'offre. Hyundai, par contre, a dit que...
On s'en vient.
Ça s'en vient d'ici 2025, il va y avoir des Genesis électriques. Est-ce que ça va être une berline parce ou que, un VUS? On va suivre
Genesis, parce que je connais l'histoire à l'interne, parce que j'ai parlé à des gens de chez Genesis haut placé. Là, on parle de la Corée.
Ça fait longtemps, oui.
Et on a eu très peu de temps pour mettre cette marque-là sur le marché. Tellement peu de temps que beaucoup de pays ont dit aux gens de Corée du Sud « Oh, attendez un peu, là, vous allez trop vite, on sera pas prête. » Honnêtement, ils n'étaient pas prêts. C'est pour ça que vous voyez pas de concession chez Genesis. Ça va commencer cette année dans des quelques marchés cibles. Mais Genesis a décidé qu'on allait probablement procéder comme Tesla, comme Polestar, c'est-à-dire que vous achetez le véhicule sur Internet, on va vous le livrer chez vous. C'est comme ça qu'on va marcher. Il va avoir des points de service. Genesis, ici, a une boutique au Carrefour Laval, entre autres, où on peut aller voir les gens. Il n'y a pas de véhicule, mais on a l'inventaire qui est là. Donc, on veut procéder de façon différente. et y aller par étapes. Mais je trouve que le produit présenté est extrêmement bien.
Il y a eu des gros progrès sur la deuxième génération.
Ah, absolument.
On a parlé beaucoup du design extérieur, mais à l'intérieur aussi, ça paraît beaucoup.
Absolument. Le luxe n'a rien à envier à ce qu'on voit ailleurs.
Effectivement.
Ce n'est peut-être pas l'arbre de Noël technologique qu'on voit du côté de Mercedes ou d'Audi, mais tout ce que vous avez besoin est là, et ça, c'est
exact.
Intéressant.
C'est très high-tech, définitivement, puis c'est pleinement assumé. Il faut vraiment avoir conduit beaucoup de véhicules Kia Hyundai pour voir le lien entre les deux sur certaines affaires, mais sinon, ça paraît pas. C'est tellement sophistiqué que c'est même peut-être un peu trop, parce que justement, le système multimédia est très compliqué. Typiquement, tu sais, typique des voitures de luxe, dans le fond, où il y a trop de menus.
Il y a de l'apprentissage, là. Nous autres, dans notre semaine d'essai, c'était juste assez pour commencer à comprendre.
J'ai jumelé mon téléphone, ça a marché.
Ouais, c'est ça.
Jusque-là, je me trouve satisfait. Il manque peut-être, tu sais, CarPlay, Android sans fil. Pour vraiment faire un véhicule très moderne, ce qui est une nouveauté qui est arrivée un peu plus tard que le cycle de renouvellement de ce produit-là. Et en général, sinon, très confortable, très silencieuse, très raffinée. Détail, pas parlant de l'habitacle, il y a de la place en masse pour 3 occupants à l'arrière.
L'habitacle est assez vertical. C'est vaste.
Mais la banquette, le dossier de la banquette ne se rabat qu'en partie, ce qui limite un peu l'utilité. Si jamais vous allez chez IKEA en Genesis, ça peut être un problème. Bref, super berline. C'est une marque en progression, on le voit.
Absolument. Puis ils ont des produits qui valent le prix qu'on demande.
Exactement. Donc très moderne, très sophistiqué, confortable.
Absolument.
Peut-être un poil en retard sur le reste du marché, parce que justement, on en parlait, l'électrification, tout ça, mais ça s'en vient. Fait que c'est une petite question de temps. Les gens qui veulent une voiture de luxe différente sont servis. Ceux qui veulent une voiture électrique devront aller voir ailleurs.
Exact. Moi, je suis allé dans un classique. On connaît les séries 5 de BMW. Les amateurs de performance connaissent la M5. J'ai eu en essai, moi, la M5 compétition. Qu'est-ce qu'on rajoute au mot compétition? On rajoute de la puissance. Il y a 617 chevaux. Donc, le titre de mon article sur annuelauto.ca, c'est le feu de Dieu.
Hein? Ah bon?
C'est vraiment, mais c'est pas rapide, c'est extrêmement rapide. En fait, honnêtement, c'est trop rapide pour ici. À 115 km/h sur l'autoroute, on a l'impression d'être au repos. Il se passe rien.
C'est une voiture. 300 chevaux, honnêtement.
Ah non, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Mm-hmm. Vous avez 553 livres de couple. En fait, c'est le moteur V8 4.4 turbo qu'on a déjà dans la M5, qu'on a dans d'autres produits comme la M8, qui est exactement le même produit en termes de moteur qu'on a mis.
Ces derniers.
Probablement, on va voir là.
On réduit
chez BMW. Puis c'est un petit peu le but de ma chronique aujourd'hui. Mm-hmm. C'est des modèles dans leur version actuelle qui sont probablement à leur dernière génération. Parce qu'on a déjà du côté de Mercedes annoncé que tout ce qui est AMG va devenir électrifié, mm-hmm, en tout ou en partie. Parce qu'on a même annoncé des modèles AMG 100% électriques. On a fait ça la semaine dernière. Et les modèles AMG qu'on connaît vont avoir des 4 cylindres ou des 6 cylindres avec une hybridation. Donc, on va avoir la même puissance en bout de piste. On n'aura pas la même approche, on n'aura pas la même livraison de cette puissance-là. Là, évidemment, vous aurez compris qu'un moteur V8 turbo, ça gronde. Là, moi, j'avais, en plus, le modèle que j'ai eu à l'essai, j'avais tout l'équipement. C'est-à-dire qu'il y a le Ultimate Package qui coûte 21 000 $ qui est inclus. Échappement en titane à 6 000 $ qui est inclus. Là, évidemment, j'avais les pneus d'hiver, donc c'était pas les pneus d'origine qu'on a, des pneus d'été là, qui sont très performants. Il y a 4 roues motrices. Il y a un nombre incalculable de modes de conduite là-dessus. Vous avez le fameux M1, M2 qu'on peut préprogrammer. Le M2, là, c'est le mode 100% attaque. En appuyant là-dessus, tout est en sport plus d'un bord à l'autre.
Wow.
Et on envoie toute la puissance aux roues arrière. Donc, on n'a plus un 4 roues motrices techniquement, à moins que vous soyez dans des situations extrêmes où là, on va retourner mais on est en mode 2 roues motrices. Donc, on passe avec une berline sport. Et cette voiture-là, de l'extérieur, ne paye pas mine. C'est-à-dire que ça n'a pas l'air d'un monstre.
Tape à l'œil tant que
ça. Non. Tu sais, on dit en anglais un sleeper, là. Mm-hmm. C'est un bel exemple. C'est une voiture qui garde profil bas. Mais à l'intérieur, c'est méchant. Ça n'a juste pas de bon sens. Évidemment, toute la technologie BMW est là. Et je dois donner un bon mot pour le nouveau système iDrive, le plus récent, qui est beaucoup plus convivial qu'auparavant.
C'est la
huitième génération.
Ouais, ça a bien progressé. Puis ça
on a un écran. Ah oui, oui, on partait de très loin. Moi, je me rappelle de la première génération avec la molette, les sous-menus. Écoute, il fallait s'asseoir 15 minutes sur le bord de la route avant de trouver quelque chose dans ce menu-là. Mm-hmm. Là, maintenant, bon, un, l'écran est tactile. Ça, tu sais, quand t'es mal pris, tu peux peser dessus, puis t'arrives où tu vas aller.
Ouais, c'est ça.
Déjà, ça, il y a toujours la molette. Mais on a raffiné beaucoup la présentation, la façon de fouiller dans les différents menus. L'écran 12,3 pouces, donc un peu plus grand, mais je pense que c'est la mode, là. Tout le monde qui amène des nouvelles générations de modèles amène des écrans aussi qui sont un peu plus grands. Et les sièges. Ah, les sièges. Écoute, c'est des sièges, bon, évidemment, le groupe Ultimate donne des sièges que moi j'appelle massants, qui sont moulants, là. C'est comme mettre un gant de cuir dans votre main, là. Le siège, là, vous enrobe.
Toujours eu des baquets incroyables.
Pour conduire, là, c'est une position de conduite idéale. On devrait prendre une photo puis dire, bon, voici la poutre. Remettez ça dans tous les véhicules. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous aurez compris qu'il y a un prêt à payer. On est à 120 000 $ de modèle de base. Ajoutez à ça le 21 000 $ du groupe Ultimate, le 6 000 $ de l'échappement en titane. On vient d'arriver à 150 000 $ Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est extrêmement cher. Mais pour qui veut une expérience de conduite qui est hors norme, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire.
Je veux dire, j'ai un échappement en titane.
Juste ça, c'est déjà quelque chose. Mais ça prend quelqu'un qui a beaucoup de contrôle. Parce que, honnêtement, aller à des vitesses qu'on connaît, c'est extrêmement difficile.
Il y a des mesures.
Il faut mettre le régulateur de vitesse. Parce que si vous vous fiez à l'idée que vous avez de la vitesse, c'est très mauvais parce que je l'ai fait 3 secondes, j'étais rendu à 135, j'avais l'impression.
Ah oui.
C'est juste parce que je suis passé à côté de quelqu'un, puis j'ai regardé, puis j'étais à 135. Donc, faut vraiment faire attention. 2 minutes pour vous parler de la Camry hybride que j'ai eue aussi à l'essai. Camry hybride, qui est un classique, là. Camry, ça fait 37 ans que c'est chez nous.
Camry hybride,
Camry hybride XSE, donc qui est nouveau cette année, en fait pour 2021. C'est une version plus sportive, en fait. C'est le même principe que la XSE à essence au point de vue du style. On parle là, il y a une partie avant qui est d'une allure plus sportive, les roues sont un peu plus grandes, il y a une suspension sport pour une tenue de route qui est légèrement plus nerveuse. Donc on ajoute tout ça, mais c'est un moteur hybride. La grande beauté du moteur hybride, vous l'aurez compris, j'ai fait 5.3 litres au 100 de moyenne. Durant ma semaine.
Est-ce donc sur l'autoroute.
Non, mais ça la rend plus un peu, mais tu sais, on garde le même moteur.
Fait
que, pensez pas que vous allez avoir des performances supplémentaires. Ça va vraiment être au niveau que la conduite. Le volant est encore un petit peu flou. Il pourrait être un petit peu plus précis. Mais vous avez tout l'équipement du XSE, là, la navigation, le chargeur sans fil. On a également 3 ports de charge USB. Donc, on a beaucoup d'équipements. La série Safety Sense, qui est avec toutes les Toyota qu'on connaît. Donc, ça, c'est une suite technologique qui est intéressante qu'on peut avoir. Le moteur, ben, c'est le 4 cylindres 2.5 litres, assez Atkinson, avec la boîte CVT. Vous avez quand même 208 chevaux. Fait que, tu sais, c'est pas dramatique. Puis avec une puissance un peu plus haute, le CVT nous paraît un peu moins difficile, un peu moins dur pour l'oreille, mais dans l'ensemble, c'est un modèle fort intéressant. 40 000 $ faut le dire.
Oh.
Mais vous pouvez avoir un modèle de base hybride à 30 000 si vous n'avez pas autant
d'intérêt. Ça s'amortit plus facilement.
Exactement, Alain. On se dépêche parce que c'est déjà tout. C'est la fin de notre version radio de Ça tient la route. Mais si vous en voulez plus, Apple, Spotify, 98.5. Vous aurez plus d'essais routiers, plus de nouvelles. Donc, on vous dit bonjour. Et pour ceux qui vont nous suivre en version balado, on va avoir des questions de nos auditeurs. Bonne semaine à tous!
Salut tout le monde!
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C'est 23.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Alors, pour les braves qui sont restés avec nous pour la période de balado, Alain, on a quelques questions parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Chose là, les promise. Gens, chose promise, chose due. Mm-hmm. Hein? Alors, on avait beaucoup de questions. J'en ai pris quelques-unes parmi les plus pertinentes parce que bon, il y en a qui nous appellent pour nous féliciter. Merci beaucoup.
Bon.
Mais c'est, on peut répondre merci.
Ah, mais ça voilà. Je vais la prendre, celle-là.
On va en prendre celle-là. Alors, on a une première question de Ghislain Charpentier. Question, lui fait 40 à 45 000 kilomètres par année pour le travail. Mm-hmm. Il regarde pour une voiture entièrement électrique. Il dit, j'ai 260 km aller-retour par jour, mais je peux charger au bureau et j'aurai une borne chez moi. Donc, lui est dans une situation idéale. Mm-hmm. Mes choix, numéro un, il regarde pour une Tesla Model 3 de base pour avoir le rabais. Parce que le modèle de base a droit au rabais.
Pas juste le modèle de base.
Je pense qu'il peut avoir
un petit... Une fois que tu as le modèle de base,
ouais,
toute la gamme
il y a un 10 000. Ah ben, en fait, il y a un 10 000, ouais. Exactement. Il y a un 10 000 plus loin, donc il pourrait peut-être prendre un modèle un peu plus élevé. Il y a un 10 000 de brochette là, auquel il a droit. Deuxième modèle, Kia Soul EV Ultimate. Moins d'autonomie, mais super bien équipé, trouve ça le fun à conduire, siège ventilé, volant chauffant. Donc, il les a roulés. Troisième choix, Chevrolet Bolt EUV. Probablement la plus équipée, là, qui va être, bon, ça part à 38, on a annoncé le prix, là. Non, 40. 38,
40 000,
c'est la Bolt.
200 $, quelque chose comme ça, ouais.
Je crois comprendre que la Bolt est un modèle, est une des plus fiables, mais là, évidemment, on l'a pas essayé, la nouvelle. Difficile à dire. Toi, tu irais à quoi, là, dans les trois choix que je t'ai donnés?
Ben, je veux dire un truc. La Model 3 me paraît le choix le plus fun, le plus, je vais pas dire raisonnable, mais certainement facilement recommandable. Léger détail à propos de la Model 3, on en a déjà parlé, c'est qu'elle s'use très vite, surtout au niveau de la carrosserie.
Ouais.
Donc, si c'est le choix ultime, peut-être prévoir une certaine protection de la carrosserie et de la peinture.
Exact.
Il y a des films qui existent protecteurs pour éviter la dégradation de la peinture.
Je suis d'accord avec toi pour la conduite.
Ça, ouais.
Tesla 3, la conduite des trois qu'il a nommé, c'est celle-là qui est...
Parce que la Bolt, ça va prendre du temps. Je veux dire, ils disent production, mise en marché fin juillet, mais
exact.
Il va y avoir des...
Ça, c'est automne,
ça
probablement. Moi, j'aurais tendance à lui dire le Soul est particulièrement
fun à conduire.
Il n'y a pas de mauvais choix
dans les trois. La Soul, c'est une bonne option aussi.
Point de vue confort, s'il fait 40 à 45 000 km par année, je pense qu'il va avoir une coche au-dessus avec le Soul EV. Mais ça ou la Tesla, le Bolt, ben faudrait être patient, puis on ne l'a pas essayé encore, ouais. Fait qu'on n'a pas vraiment d'opinion.
On peut présumer.
On peut présumer, effectivement. J'ai une autre question ici de Loris Repetti. Elle hésite entre acheter un Toyota RAV4 LE All-Wheel Drive et le Subaru Outback au même prix. toi, t'es concerné. Quel achat, selon vous, serait le plus adéquat si je recherche fiabilité, confort et espace? C'est un véhicule que j'aimerais acheter et garder longtemps. Merci à vous.
Bon, regarde, moi, je veux dire, c'est sûr, j'ai acheté une Outback en 2011. Je la conduis encore, elle va très bien. Il y a un truc à propos de l'Outback. Premièrement, c'est pas un VUS, c'est une familiale 4 roues motrices.
Exact.
C'est un format, donc, un peu moins... En tout cas, très logeable aussi. Et un truc qui, et je ne comprends pas qu'il y ait juste l'Outback qui est ça dans le marché, c'est que les rails de toit peuvent pivoter et devenir un support pour une boîte,
ouais,
ou pour un chargement quelconque. Et c'est dans la voiture. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'acheter à part. Évidemment,
non,
ça prend
ça
le groupe optionnel
avec,
qui l'inclut. Mais sinon, juste ça, moi, je m'en sers les vacances, l'hiver, l'été, n'importe quoi. Puis ça rend la voiture pas mal plus fun, plus conviviale. Et la Outback est une familiale, disons-le, plein format.
Ouais.
Nous, on est 5 dans la famille, puis on s'assoit là-dedans, puis on embarque les valises, puis tout le kit pour partir, puis c'est 8,6 litres au 100, notre moyenne de consommation.
Absolument.
Donc,
absolument.
C'est une voiture
T'as le 4 cylindres, il faut le dire.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais, avec la CVT qui n'est pas super excitante, mais quand même, je veux dire, c'est une voiture d'un gros format. La RAV4, c'est un VUS, bon, c'est compact, est un peu, n'est plus nécessairement le bon mot, mais ça reste...
C'est rendu pratiquement presque une intermédiaire, mais c'est parce que Alain a raison, c'est une approche différente pour les deux modèles. On a une approche qui est plus camion, sans tomber là, dans des gros camions, mais une approche plus VUS,
ouais,
pour le RAV4.
Ben, les gens vont aimer, c'est la position de conduite du RAV4,
ouais,
qui est plus élevée, donc c'est plus rassurant, mais ça change absolument rien.
Mais
à la fin de la
pour l'ensemble de l'œuvre, bon, oui, c'est sûr que le RAV4 est un modèle de fiabilité, mais le Outback est très fiable aussi.
Ouais.
Moi, pour le côté versatile, le côté polyvalent, j'irais du côté du hatchback, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et parce que j'aime les voitures et que...
Ah, bien, il y a ça aussi, oui.
Et que j'achèterai pas de VUS.
J'ai pas fait la recherche vite comme ça, mais vérifiez, si vous voulez, la cote d'émissions polluantes, parce que l'hatchback a une cote d'émissions de grammes de CO2 par kilomètre très faible.
Oui.
Et je pense qu'elle est vraiment de loin plus faible que ce que le RAV4 affiche.
Donc, on vous donne une tendance qui irait vers le Subaru hatchback. On a une autre question de Gaétan Dauphin qui nous demande « J'aimerais avoir votre avis. Depuis fort longtemps, je rêve d'avoir un Land Rover. J'ai 60 ans. Les finances moyens, il ne veut pas acheter neuf nécessairement, mais il voudrait savoir qu'est-ce qu'on pense de quelqu'un qui va acheter un Land Rover d'occasion.
Mmh, moi, je pense. Hey, t'as pas le droit de rire, là.
Non, c'est parce que c'est le...
Ben, tu sais, c'est pas une marque parfaite, hein, disons-le comme ça.
Ça, c'est la façon polie de le dire, effectivement.
C'est extrêmement énergivore comme véhicule.
Ouais,
pour même un déplacement minimal, c'est
dans
peu,
ce qu'il y a de pas trop vieux, puis qui est relativement fiable, et là, je souligne...
Relativement étant...
Relativement souligné deux fois en gras, là. Il y aura peut-être le Discovery, qui est pas trop énergivore. C'est sûr qu'on oublie, là, les Range Rover, tout ça. D'abord, un, c'est encore cher, même d'occasion, et deux, c'est pas fiable pour 2 cents. Vous allez toujours quelque part pogner avec ça. Le Velar va encore être très cher parce qu'il est pas vieux.
Ouais.
Le Evoque est très petit. Il est pas mauvais. Ça serait peut-être une... J'irais Evoque ou Discovery.
Ouais. Mais c'est ça, c'est peut-être pas l'expérience Land Rover à laquelle on
pense. C'est ça, c'est plus petit. Mais ça serait ou le Evoque ou le Discovery. Le reste, je toucherai pas à ça. Pour aucune raison. J'aurais peur d'avoir fait une mauvaise recommandation. Ah, l'autre question est intéressante, Alain. Elle est assez longue. Je vais essayer de la réduire. C'est Marjorie Lorrain qui nous écrit. La dame travaille pour la MRC de la vallée du Richelieu. Ils ont un projet qui s'appelle la récolte marché agroalimentaire. En fait, c'est une remorque qu'ils ont transformée en marché mobile afin de créer un circuit d'approvisionnement pour les municipalités du territoire de la MRC.
Ouais.
Là, la remorque, me dit-on, pèse avec, bon, modifié tout, pèse 4500 kilos. On est à 10 000 livres.
C'est 10 000 livres, exactement.
Donc, elle demande quel genre de véhicule qu'on lui recommande pour traîner ce véhicule-là. Évidemment, faut pratiquement aller dans une camionnette. Là, on n'a pas beaucoup de choix.
Oui, parce que les gros VUS font moins... Ils font quoi, 6 500?
Les meilleurs vont faire 7 000. Il y en a 7 200, mais à 10 000, là, oublie ça, il y a pratiquement rien.
La grosse camionnette.
En fait, c'est ça. Est-ce qu'on va dans la grosse camionnette ou est-ce qu'un F-150...
Ah, pour moi, c'était une grosse camionnette.
Non, mais moi, gros, je parle des 2500 et des 3500. Mais là, on peut traîner des poids. Parce qu'elle demande, est-ce que je dois prendre un GMC 2200, puis bon, c'est réglé.
Ah oui.
2500, c'est réglé. Vous pouvez prendre... puis là, tout dépend. Évidemment, là, est-ce qu'on vous recommande un Ford, un GMC, un Chevrolet, un Ram? Les choix sont nombreux. Et tous ces camions-là, les 1500, peuvent tirer 10 000 livres.
Exact.
Donc, le problème n'est pas là.
Ah oui, si elle recherche un F-250 ou un 2500...
Alors, tout dépend du prix que vous devez payer. On peut même aller dans des véhicules, des camionnettes d'occasion, si vous avez pas, si vous avez un budget, parce qu'on sait, les municipalités ont des budgets serrés à respecter.
Puis, je vais aller un petit peu plus loin sur la notion de remorquage. Les codes de remorquage ne sont pas des limites légales ou quoi que ce soit. C'est une recommandation du fabricant. Donc,
exact.
Quand on dit qu'un F-150 fait 10 000 livres ou 12 000 livres de remorquage, je ne sais plus exactement.
Ils font autour de 12 000, là, dépendamment des...
C'est parce que là,
il y a des...
Absolue,
non, non, il y a des groupes de remorquage qu'on peut prendre. Il y a des moteurs qui vont en faire plus que d'autres, mais dites-vous qu'en général, peu importe la marque, les camionnettes 1500 font à peu près là, autour de 12 000 livres. Donc, à 4500 kilos, qui est à peu près 10 000 livres, vous êtes dans les paramètres de ces véhicules-là. Donc, ça serait des modèles à choisir.
2 ans, ça doit exister pas cher, donc c'est peut-être une
ça
façon
existe.
De,
moi, je dis
de
même deux,
quelque chose de bien.
2 et même 3 ans, on aurait des prix qui sont corrects avec des modèles 1500. Dernière question, et après ça, on va clore l'émission. C'est un monsieur qui nous écrit, Marc Bernier, qui nous écrit qui a magasiné une Nissan Sentra Premium et il spécifie le modèle orange, comme on le montrait dans les annonces. Là, okay. la nouvelle Sentra, parce que c'était la couleur de lancement.
C'est, on ça a ça. Brûlé, je sais pas trop.
Une espèce d'orange bronze un peu. Lui, il trouvait ça très beau. Il a eu promesse d'achat avec toute la paperasse, etc., etc. Il dit, je vais avoir ça dans 2 mois. Les 2 mois sont passés. Il a appelé le concessionnaire. La production est arrêtée pour 2020. Il est arrondi à 2021. Il a rappelé au mois de janvier de cette année pour se faire dire qu'il y avait encore de la difficulté avec la couleur orange. Il me propose d'autres couleurs. Je veux pas d'autres couleurs. Il veut le jaune orange, lui.
Ouais.
Donc, 6 mois d'attente, pour le moment, rien. Nissan fait beaucoup de publicité. C'est vrai que, bon, on ne fait une publicité par roule, puis c'est la même tout le temps. Là, il se demande, il n'a-tu un jaune orange? Bon, je peux vous confirmer, M. Bernier, qu'il y en a un, parce que nous, on a eu un en essai.
Mm-hmm.
Le problème qu'il y a en ce moment, il y a un problème de fourniture un peu partout, tant au niveau des pièces que des puces électroniques. Il y a une usine où on produit ça. Est-ce qu'il manque des couleurs orange? Moi, je vous dirais, ou vous allez la commander directement sur le site, parce que ça peut se faire sur le site de Nissan pour faire commander, ou vous allez appeler un autre concessionnaire.
Ben, sauf erreur, il faut payer, je pense, 900 $ de plus pour avoir l'orange, quelque
chose
comme ça.
Oui, il y a un prix, là, je me rappelle plus du prix, mais tu as raison, il y a un prix.
Le minimum pour ça. Serait de négocier une réduction du montant payé pour cette
couleur-là.
Exact. Mais
j'ai pris la question de M. Bernier parce que ça reflète un problème qu'on retrouve. Et ce que je vais ajouter à cette question-là, c'est qu'il va falloir s'habituer à l'avenir, et ça c'est déjà commencé à être patient pour avoir un véhicule. L'époque où on magasinait un véhicule qui était déjà dans la vitrine, qu'on partait avec le lendemain, là, cette période-là, à moins qu'il y ait un véhicule dans la vitrine qui vous tente, là, il va falloir apprendre à appeler, à le commander, puis à attendre 2, 3, 4, 5 mois, parce que ça peut être long. Donc, habituez-vous à ça, parce que ça va prendre un peu plus de temps. Alors voilà, c'était nos questions pour cette semaine. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, c'est facile, vous faites balado avec un S, à commercial 98.5fm.ca, ou vous allez sur la page Facebook d'Alain, ma page Facebook Benoît ouais. Charrette, ou sur annuelauto.ca, on a un endroit pour les questions et on va amener ça à l'émission à un moment donné. Alors, merci à tous. Comme on vient de faire aujourd'hui. Merci à tous et on se reparle la semaine prochaine. Salut!
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C'est 23.